Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les nouvelles technologies contre la délinquance. Dans le nord de l'Angleterre, dans le North Yorkshire, ce sont les éleveurs de moutons qui ont trouvé la parade contre le vol de leur bétail. Le nombre de ces larcins est en hausse de 11% sur les deux dernières années, selon les assureurs, avec des pertes évaluées à 2,7 millions d'euros. À Westerdale, en Angleterre, Marie Billon a rencontré des éleveurs qui utilisent une nouvelle parade pour préserver leur cheptel.
Jonathan va vérifier que tout va bien. Ces 200 brebis et autant d'agneaux sont en liberté dans la lande des North Yorkshire Moors. Impossible de faire un décompte précis donc dans ce vaste espace vert sans clôture, mais ça leur assure quand même d'apercevoir ces bêtes.
Tous les ans, au mois de mai, je laisse les brebis et leurs petits aller paître en liberté jusqu'à la tombe de juillet. Pendant plusieurs années, il y en avait beaucoup qui ne revenaient pas. Il y en a toujours qui sont tués par des voitures, mais c'était quand même bizarre. Il y a 3-4 ans, 20 agneaux, c'est-à-dire 10% du total, manquaient à l'appel. Sachant que chaque tête vaut 50 à 70 livres sterling, ça fait 1000 livres perdus chaque année. Et on ne peut pas les remplacer, car ce sont des moutons de terroir liés à cette portion de la lande. On ne peut pas juste en racheter d'autres, ils doivent naître ici. Donc ça fait baisser le cheptel et nos revenus. It has a long-term impact
on your returns. Jonathan a donc alerté la police de son comté, le Yorkshire, qui était en discussion avec l'un de leurs anciens collègues, John Minari. Cet ex-détective, qui rejoint Jonathan dans son inspection matinale, a créé en 2017 Tech Tracer, un pot de peinture pas comme les autres.
Vous voyez le trait bleu sur le dos des moutons. Dans la peinture, il y a des milliers de minuscules bouts de métal sur lesquels est gravé un code appartenant exclusivement à la ferme de Jonathan. Si un voleur prend une cinquantaine de bêtes à la fois, il doit être certain qu'il n'y a plus aucun micro-point métallique dans la laine, car ils sont si petits qu'ils restent sur la fourrure qui poussent et vont se poser sur la peau. Les malfaiteurs voudront peut-être enterrer la toison, ou bien la jeter quelque part, ou même la brûler. Mais ce métal est résistant à la chaleur. Tout ça donne beaucoup de travail aux voleurs, et c'est en ça que Tech Tracer est à usage préventif.
En cas de vol, il faudra que la police passe la peinture au microscope, voit s'il y a des bouts de métal Tech Tracer dedans et, le cas échéant, lise le code pour retrouver le propriétaire spolié. En tant qu'ex-détective, John a quand même développé un mécanisme qui aide ses anciens collègues. Il explique en se dirigeant vers la bergerie où Jonathan va continuer l'attente.
Quand les victimes de vol nous préviennent, notre système envoie automatiquement une alerte aux éleveurs des alentours, mais aussi aux abattoirs et aux bouchers, et aux marchés aux enchères. Donc si on leur dit que 30 brebis Texel ont été volées avec une marque bleue sur les épaules, et qu'ils voient arriver ces animaux, ils savent qu'ils ont été volés. C'est aussi simple que ça.
Le bracelet sur l'oreille peut être enlevé, ou la marque sur les moutons qui ont des cornes peut être effacée. Et je suppose qu'on peut juste tondre la laine là où il y a la peinture bleue. Mais ça ferait très bizarre de voir un mouton avec juste un bout de laine en moins.
Et ça ne marcherait pas non plus si les voleurs tentaient de vendre juste la toison en dehors du marché noir, car un mouton, ça ne se tombe pas n'importe comment. Il faut que la toison reste en un seul morceau. Avant d'ouvrir le portail, il pointe du doigt le panneau rouge avec deux yeux menaçants dessinés dessus. C'est une affichette que Tech Tracer donne à ses clients. Puisque l'important, c'est la prévention, il faut que l'utilisation de cette technologie soit connue pour dissuader les voleurs. C'est aussi pour ça que John est très actif sur Twitter et les réseaux sociaux quand il ne met pas lui-même la main à la pâte. Certaines bêtes donnent du fil à retordre. Le trait bleu, qui est la marque de la ferme de Jonathan, est toujours bien visible quand il enroule la laine pour la fourrer dans un sac.
Ce marquage restera 12 mois, la couleur partira petit à petit et j'en remets un coup 2-3 fois par an, mais les bouts de métal, eux, demeurent dans la laine.
Jonathan referme les sacs contenant les toisons. Il va rapidement les envoyer à British Wool, l'organisme national qui juge la qualité de la laine et la note. Tout en rangeant ses pinceaux, John explique que Tech Tracer, s'il ne donne pas plus de travail à l'éleveur, a effectivement un point faible.
Les bouts de métaux restent présents, donc il faut informer British Wool de l'utilisation de cette peinture et la notation de la laine en sera peut-être dégradée. Elle ne sera pas utilisée pour faire des habits ou des tapis, mais plutôt pour du matériel d'isolation.
Mais comme la laine est une si petite part de mes revenus, certaines de ces toisons ne me rapportent que 30 à 40 centimes de livre, j'ai décidé que ça valait le coup.
Cela fait 2 ans maintenant que Jonathan utilise TechTracer et il ne le regrette pas. Un pot de peinture, s'il est acheté seul et pas en lot, coûte l'équivalent de 39 euros. Les deux hommes rentrent dans la ferme pour une tasse de thé et discuter de la prochaine étape, l'idée d'installer des colliers GPS sur quelques animaux pour faciliter le travail de la police en cas de vol.
À lire cette semaine dans l'hebdomadaire Courrier International, les dernières péripéties du navire de l'ONG allemande Sea-Watch, coincé en mer depuis 14 jours. Le bateau a mis le cap sur l'Italie et l'île de Lampedusa pour pouvoir débarquer les 42 migrants à bord. Une décision qui tourne à la confrontation entre la capitaine du navire et le ministre italien de l'Intérieur. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Frédéric.
La presse transalpine s'intéresse de près à la jeune femme à l'origine de cette décision.
Absolument, il s'agit de la capitaine du Sea-Watch 3, celle qui a fait le choix de défier le gouvernement transalpin et surtout le ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, comme vous venez de le dire. Âgée de 31 ans, Carola Rackete est allemande et son nom est déjà connu de tous dans la péninsule avant même qu'elle n'ait posé le pied sur la terre ferme. Sa décision a créé une réelle fracture dans la presse locale. Du côté de la Repubblica, on applaudit. Cette fois, le ministre de l'Intérieur se retrouve confronté à une dure accusation. S'enthousiasme le quotidien de centre-gauche. Il ne pourra pas affirmer qu'il affronte une ennemie du peuple aux mains de la finance mondialiste. Non, Carola Rackete est simplement une citoyenne engagée qui, à ses risques et périls, a décidé de corriger le comportement honteux de ceux qui gouvernent l'Union européenne. En revanche, le Libero Quotidiano ironise sur le CV de l'Allemande, écologiste, végane, polyglotte et qui a fréquenté 3 universités. Une star est née, se gosse le journal de droite, et ses admirateurs se précipitent déjà vers le port de Lampedusa pour l'accueillir. Elle vient, je cite, de prendre la place de la militante écologiste Greta Thunberg dans le cœur des gauchistes. Alors son action, elle est courageuse, pointe pour sa part le média en ligne de gauche Open, qui rappelle qu'en n'obéissant pas à l'ordre d'arrêter le bateau, elle pourrait avoir commis une infraction pénale et être accusée d'avoir favorisé l'immigration clandestine, ce qui implique des peines allant de 5 à 15 ans de prison. Alors comment tout cela va-t-il finir? C'est difficile à dire. Pour le quotidien de droite Il Giornale, il s'agit là d'une confrontation très dure entre un homme et une femme aux personnalités très fortes. Ça peut paraître étrange, mais ces deux-là se ressemblent, insiste le quotidien. Ils veulent tous les deux aller jusqu'au bout dans le cadre de ce qui ressemble fort à un duel final. Celui qui restera debout aura gagné.
Un tout autre sujet, Sacha, au Royaume-Uni, un phénomène de mode continue de faire des émules 20 ans après sa naissance.
Absolument. Est-ce que vous connaissez les chaps, Frédéric?
Pas vraiment, mais vous allez tout nous expliquer.
Alors, chap, en anglais, ça veut dire type gars, familièrement. Mais c'est aussi un courant vestimentaire et même plus un courant philosophique. Les chaps, en deux mots, tiennent aux bonnes manières et s'opposent à la banalité et à l'homogénéisation de la culture populaire. Prenez Daniel Hutchinson, un jeune homme que le site The Overtake a récemment rencontré. Dans le café où la journaliste de ce média basé à Leeds l'a interviewé, il était vêtu d'un costume gris à chevrons avec pochette, d'une cravate noire à pois blanc et d'un chapeau de feutre assorti à son ensemble parfaitement repassé. En somme, c'est le stéréotype vraiment du gentleman britannique. Car un chap digne de ce nom exècre les pantalons de Nîmes, autrement dit les jeans, et prend part à des rassemblements contre l'ouverture de magasins de prêt-à-porter. Mais il faut bien le dire, la tenue ne fait pas tout. Les chaps ont aussi leur propre magazine depuis 1999 qui s'appelle The Chap, ça ne s'invente pas, et qui est connu pour son excentricité, son contenu satirique et son ironie. Et ce mouvement rétro ne se limite pas qu'aux hommes. Chap et chapette, comme on appelle les aficionadas du mouvement, se rencontrent à l'occasion de plusieurs événements comme les Chap Olympiades, un rendez-vous sportif excentrique. La prochaine édition est d'ailleurs prévue le 10 août dans le sud de l'Angleterre, où les concurrents s'affronteront dans des courses de vélo avec théière ou des concours qui consistent à faire tenir du fromage en équilibre sur une baguette. Alors réac les chaps, un peu oui, ça ne fait pas de doute. Ils trouvent que le monde va trop vite de nos jours, préfèrent les vieux films, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils n'aiment pas le rythme et les grossièretés des modernes. Mais il s'agit avant tout de ne pas se prendre au sérieux, comme le dit Daniel Hutchinson, à qui on va laisser le mot de la fin. Être un gentleman, dit-il, c'est être un humain aimable, ordinaire, courtois, bien intentionné et respectueux. Rien que ça, il conclut avec une pointe d'humour des plus britanniques. Après tout, il faut que chacun soit lui-même parce que tous les autres sont pris.
Belle formule. Alors, tandis que certains regrettent l'ancien temps, d'autres, plus au nord, veulent s'affranchir du temps. Racontez-nous.
Eh oui, direction Sommarøy, petite île de 350 habitants au nord de la Norvège, en plein dans le cercle polaire. Une situation géographique bien particulière qui lui assure en été 68 jours durant lesquels le soleil ne se couche pas et 48 jours d'obscurité en hiver. Du coup, eh bien, les habitants de l'île estiment vivre de manière différente le concept de temps et veulent tout simplement l'abolir. C'est un petit peu poétique. Chef de file de ce mouvement, Kjell Overveding de l'association Time Free Zone ou Zone Libérée du Temps. Interrogé par NRK, la radio-télévision publique du pays, il explique « Nous rêvons de parvenir à une flexibilité totale, 24 heures sur 24. Vous voulez tondre votre pelouse à 4 heures du matin ? Eh bien, allez-y. » Dans les colonnes de The Guardian, au Royaume-Uni, le philosophe Julian Baggini y voit une avancée supplémentaire de l'ubérisation de la société, en quelque sorte. Il explique que loin de constituer un rejet des valeurs de la vie moderne, cette idée est le prolongement d'une culture où l'on est en droit de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on le veut, en cliquant sur une appli. Selon le philosophe, ça serait plutôt un coup de pub, en fait, tout simplement, pour une île qui dépend principalement de la pêche et du tourisme.
Autant de sujets à retrouver cette semaine dans Courrier International et sur le site de Courrier International. Merci beaucoup, Sacha Mitchell.
Merci, Frédéric.
Il y aura une Gay Pride demain à Skopje, un événement pour la Macédoine du Nord, le dernier pays des Balkans à ne jamais avoir organisé de marche des fiertés. Les explications de Simon Rico.
Cela faisait longtemps que les associations de défense des LGBT+ attendaient ce moment, la tenue de la première marche des fiertés dans les rues de la capitale Skopje. Il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir des sociodémocrates au printemps 2017 pour que la Macédoine du Nord fasse un pas en avant en faveur des droits des lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Quelques mois plus tard, début 2018, un intergroupe parlementaire a été mis sur pied avec l'objectif de modifier la législation macédonienne et d'offrir aux citoyens et citoyennes LGBT+ les mêmes droits que le reste de la population. Si cet intergroupe continue officiellement de travailler, pour le moment, aucun texte n'a été voté par les députés sur ces thématiques. Pour les militants LGBT+, cette première Gay Pride macédonienne est donc l'occasion de se rappeler aux bons souvenirs du gouvernement de Zoran Zaev. Voilà pourquoi les organisateurs insistent sur la nécessité d'obtenir le plus large soutien possible et la participation active de toutes les franges de la société, responsables politiques, personnalités publiques, militants de la société civile ou artiste pour vraiment faire changer les mentalités. En effet, l'homophobie reste forte dans une société macédonienne très patriarcale. Les lieux de rencontre LGBT+ sont par exemple très peu nombreux dans le pays et même inexistants hors de la capitale. Quant à l'idée de faire son coming out, cela continue d'être un tabou pour beaucoup de jeunes lesbiennes et gays, particulièrement au sein de la minorité albanaise. Gageons que la marche des fiertés du 29 juin atteindra au moins un peu son objectif d'ouverture.
Two days before Christmas 1996, a French woman was murdered in a remote part of West Cork on the southwest coast of Ireland.
On n'a pas fini de parler du meurtre de la Française Sophie Toscan du Plantier dans le sud de l'Irlande. C'était il y a plus de 22 ans et nouveau rebondissement en mai dernier, le principal suspect Ian Bailey a été condamné à Paris en son absence à une peine de 25 ans de prison. Deux journalistes britanniques ont décidé d'enquêter sur cette incroyable affaire franco-irlandaise. Ils en ont fait un podcast, West Cork, cité par le Time Magazine comme un des 50 meilleurs podcasts en 2018. À Dublin, Julien Lagache l'a écouté pour nous.
This is West Cork, an Audible original series. I'm Sam Bungie.
I'm Jennifer Ford, and this is episode 1, Blow-ins. Avec West Cork, les journalistes Sam Bungie et Jennifer Ford entraînent l'auditeur dans une longue enquête restituée ici en 13 épisodes et 8 heures d'écoute. C'est une plongée dans l'univers rural et isolé du comté de Cork dans le sud-ouest irlandais. Le meurtre de Sophie Toscan du Plantier y reste ancré dans les mémoires et revient régulièrement dans les conversations au gré de l'actualité. Une Française victime innocente d'un crime sans précédent pour la région et pas de coupable. Bref, une histoire entêtante et un puzzle toujours inachevé.
Trying to make sense of an investigation where everything is still on the table, where witness stories are still changing 20 years on.
Nous avons essayé de comprendre cette enquête où tout reste ouvert et où les témoignages changent encore, même 20 ans plus tard, explique Jennifer Ford, qui a passé 3 ans avec son compagnon Sam Bungie à rencontrer sur place les différents protagonistes, à exhumer des témoignages passés inaperçus, à explorer des pistes abandonnées, mais aussi à expliquer un contexte local propice aux multiples suspicions, des suspicions qui se concentrent sur un Britannique, alors installé depuis peu dans la région, Ian Bailey, qui n'a cessé d'attirer la lumière et les regards méfiants au fil de l'enquête.
What was it about this man that has people so convinced he did it?
How a guy looks or carries, or the size or the height or the weight of him, or the presence he might have, or whatever kind of a demeanor he might give off, is completely irrelevant.
Dans la lignée du célèbre podcast américain Serial et du documentaire de Netflix Making a Murderer, les auteurs de West Cork dissèquent la chronologie de cette enquête criminelle et surtout l'attitude des gens de la région, l'impact de l'affaire sur l'opinion et vice-versa. Leurs souvenirs sont confrontés à leurs témoignages, parfois à leurs rétractations. On ne cesse de s'interroger sur les motifs et réactions des uns et des autres. Fil rouge du podcast, Ian Bailey, éternel suspect numéro 1, ne cesse de clamer son innocence. Le personnage semble mesuré, intelligent, il se veut un peu excentrique et marginal, mais certains habitants de West Cork décrivent un homme inquiétant, voire possédé. En dépit d'une narration précise, l'examen des faits bute d'ailleurs inlassablement sur ces zones d'ombre et sur le mystère qui continue de s'épaissir autour de l'affaire, loin d'être classé.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
Et pour notre chronique musique, nous retrouvons Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez aujourd'hui de Pongo, une chanteuse portugaise d'origine angolaise qui vous a enthousiasmé.
Avec la sortie de son premier album solo, la chanteuse Pongo est déjà promise au titre de révélation de l'année. À 26 ans, la portugaise n'en est pourtant pas à ses débuts. C'est en 2009 qu'elle rejoint le groupe Buraca Som Sistema, fer de lance du Kuduro. Un mélange de breakdance, de semba et d'électro importé au Portugal par la diaspora angolaise. Car Pongo est née à Luanda, où elle a vécu jusqu'à ses 8 ans, quand ses parents décident de quitter l'Angola pour fuir la guerre civile et s'installer à Lisbonne. Baia, son premier album, est traversé par l'énergie et la nostalgie de son pays. Sur des rythmes souvent enlevés, on y entend un mélange irrésistible de pop et de kuduro, avec notamment un beau travail sur les percussions. En extrait, je vous propose la douce Kudzola, titre qui signifie « amour » en Kimbundu, la langue parlée dans la région de Luanda.
Na rabuda que manda no requebrar. A criola que vou a te ama, te beija, faz viajar. Sou eu.
Pongo en concert ce dimanche au Festival Europa Vox de Clermont. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grolot avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission Européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast. À bientôt.